C'est une des voix les plus réputées, les plus redoutées de l'économie. Mon invité est le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, l'un des fondateurs et l'un des représentants les plus connus du nouveau keynésianisme. Joseph Stiglitz, bonjour.
Bonjour.
Après avoir été professeur au célèbre MIT de Boston, vous avez enseigné à Yale, Princeton, Stanford. Et aujourd'hui, vous enseignez à Columbia et vous publiez Le triomphe de la cupidité. Puis aussi, après avoir été le conseiller économique de Bill Clinton, vous avez été chargé par le président français, Nicolas Sarkozy, de réfléchir à une nouvelle mesure de la richesse du PIB qui prenne en compte plus le bonheur. Alors, on va parler de tous ces sujets, mais tout d'abord, ce livre que vous publiez, Le triomphe de la cupidité, c'est un livre que vous publiez du reste aux éditions 3L, le lien qui libère. En anglais, c'est Free Fall. Du reste, c'est assez bizarre comme traduction. On va revenir de tout ça, mais la semaine est très chargée en Europe, dans la zone euro, avec cette spéculation autour de la dette grecque et de la zone euro. Est-ce que vous êtes inquiet sur ce qui se passe en Europe et particulièrement sur l'euro?
There are obviously a lot of worries about Greece. The speculators
Bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet de la Grèce. Elle est attaquée par les spéculateurs. Si on observe la situation réelle en Grèce, il n'y a pas vraiment de raison de... Non, si les marchés étaient confiants, alors les taux d'intérêt seraient suffisamment bas pour que la Grèce puisse payer sans difficulté. Évidemment, les marchés sont très inquiets, les taux d'intérêt ont crevé le plafond, et personne ne pourrait payer à ces taux. J'ai eu l'occasion de parler avec le ministre de l'économie et le premier ministre grec, de discuter avec eux de leur plan économique. Et je pense qu'ils ont une bonne analyse de la situation. Ils mettent en avant un programme très complet. Qui soucie de l'équilibre. On veut réduire le déficit, mais on ne veut pas entraîner l'économie vers une récession ou une dépression qui serait contre-productive. Le déficit augmenterait.
Est-ce qu'il y a un risque de l'éclatement de la zone euro ?
Il ne devrait pas, mais il est absolument impératif que l'Europe, d'une façon ou d'une autre, apporte son aide pas seulement à la Grèce, mais à l'Espagne, au Portugal, à d'autres pays, comme l'Italie ou l'Irlande. Donc je crois qu'il est primordial pour la continuité de l'essence de l'euro qu'il y ait un engagement de cette sorte. C'est un problème que beaucoup d'entre nous avaient envisagé dès la création de l'euro, que ça marcherait très bien en période de croissance. Mais que se passerait-il si une partie de la zone euro, notamment en périphérie comme la Grèce ou l'Espagne, se retrouvent en difficulté? Aux États-Unis, on a une monnaie unique, mais nous avons une base fiscale solide. Si la Californie a des difficultés, nous pouvons l'aider. Les gens peuvent migrer facilement. C'est ce qui manquait à la création de l'euro. Il y a des fonds de solidarité pour aider à la transition. Mais il n'y a pas de fonds de solidarité ou de procédé de solidarité pour aider la stabilité.
Il faudrait une gouvernance économique de la zone euro.
Vous avez besoin d'une meilleure gouvernance économique.
But you have to
pas forcément les mêmes institutions qu'aux États-Unis. Mais il vous faut un moyen de gérer la situation actuelle où une partie de la zone euro a des problèmes. Surtout dans un monde de marchés financiers comme le nôtre, où on a la possibilité d'une attaque spéculative comme celle qu'on est peut-être en train de vivre, ça pourrait vraiment perturber la stabilité de toute l'Europe.
Cela veut-il dire que nous ne sommes pas sortis de la crise, Joseph Stiglitz?
Tout à fait. L'Europe et le monde sont toujours au cœur de la crise. L'une des choses que je souligne dans mon livre, c'est précisément que ça ne va pas être facile de sortir de cette situation.
another great depression.
Pour éviter une nouvelle grande dépression, la difficulté c'était de mettre en place des mesures qui fonctionnent. L'économie keynésienne a fait ses preuves. Mais l'une des conséquences, c'est un plus grand déficit, une plus grande dette, et gérer ça ne va pas être facile.
Vous êtes ce qu'on appelle un nouveau keynésien, justement. Vous avez favorisé les plans de relance. Est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est que les plans de relance nous ont conduits dans cette situation de déficit ?
Comme je dis, les déficits ne sont pas si énormes. S'ils devaient se maintenir ainsi sur une longue période, alors il y aurait un problème. Mais les gouvernements qui ont fait attention à la façon dont l'argent est dépensé sont en fait plutôt en forme. Chaque entreprise se soucie des dettes et des actifs. Si vous dépensez de l'argent pour créer des actifs, vous pouvez même être en meilleure forme. Il est intéressant de voir que lorsqu'on observe les entreprises, on regarde aussi bien les actifs que les dettes. Mais lorsqu'on observe les gouvernements, on a tendance à ne regarder que le déficit. Et c'est vraiment de la mauvaise économie. C'est manquer de perspective et c'est pourquoi il faut être vigilant à la manière dont l'argent est dépensé. Mais s'il est bien dépensé, il serait fou de réduire le déficit, car cela entraînerait à long terme une dette plus grande encore.
Oui, vous étiez à Londres il y a encore quelques jours, vous avez dit à Gordon Brown, attention, il ne faut pas céder au fétichisme budgétaire. Pourtant, comment faire pour sortir de cette crise ?
La solution se situe dans la même veine que celle à laquelle le gouvernement grec réfléchit. C'est-à-dire que, tandis que vous restaurez l'équilibre budgétaire, tout en faisant attention à l'économie qui redémarre, assurez-vous que les dépenses sont faites sur des investissements rentables. Dans le cas des États-Unis, ça veut dire réduire les dépenses d'argent inutile pour des armes qui ne marchent pas contre des ennemis qui n'existent pas. On peut avoir plus de sécurité en faisant moins de dépenses. Ça signifie aussi essayer de trouver une solution pour mieux faire fonctionner le secteur privé. L'un des problèmes actuels, c'est que les banques ne prêtent pas, et parce qu'elles ne prêtent pas, le secteur privé n'a pas de bons résultats. Il faut donc trouver un moyen pour que le secteur privé fasse ce qu'il a à faire. Dans le cas de la Grèce, ils essaient de créer de nouveaux fonds qui aideraient les petites et les moyennes entreprises.
Mais que faire aux États-Unis ou en France ou en Europe ?
L'une des solutions pourrait être de créer de nouvelles facilités de crédit. Ou disons que si la Réserve fédérale ou encore la Banque centrale prête aux banques, alors celles-ci doivent prêter aux PME. Mais aujourd'hui, elles utilisent cet argent pour créer des bulles spéculatives partout dans le monde. L'ironie, c'est qu'il y a une colère mondiale contre la Réserve fédérale. Aux États-Unis, on est en colère parce qu'il n'y a pas de prêt. En Asie et en Amérique latine, on est en colère parce que l'argent crée des bulles spéculatives, ce qui crée des problèmes là-bas. Donc si nous avions des mécanismes qui s'assuraient que l'argent qui va aux banques va bien être prêté ensuite aux entreprises, ça aiderait à ressusciter l'économie.
On marque une pause, Joseph Stiglitz, on se retrouve tout de suite.